Je suis une chercheure spécialisée dans des approches de phénoménologie concrète qui permettent d'explorer précisément et finement son expérience vécue. Et je vais m'intéresser ce matin à une dimension de notre expérience vécue qui est peu reconnue, peu explorée. C'est la dimension, enfin, c'est l'expérience de l'émergence d'une idée, d'une compréhension, d'un sens. Je m'intéresserai à la structure dynamique de cette expérience d'émergence. Et puis aux procédés qui permettent d'en prendre conscience. Parce que c'est une expérience qui est en général très peu reconnue, très peu consciente et remarquée. Et puis finalement, je m'interrogerai sur les conséquences pédagogiques éventuelles de la reconnaissance de cette dimension microgénétique du sens, qu'on pourrait appeler comme ça, micro. Alors, ordinairement, quel que soit le processus cognitif qu'on étudie, phénoménologiquement, donc l'attention, ce qu'on remarque, c'est notre attention est absorbée dans le contenu du processus. Alors, je vais prendre quelques exemples. Lorsque j'entends un son, mon attention se porte immédiatement sur l'événement physique qui est à la source du son. Je vais dire que c'est une mésange dans le cerisier en fleurs. J'ai très peu conscience des micro-opérations que je réalise pour reconnaître que c'est une mésange dans le cerisier en fleurs qui se trouve qui arrive pas par la fenêtre. Lorsque je fais un mouvement, si j'attrape mon stylo, mon attention est concentrée sur l'objet que j'attrape. Je perds en fait conscience, je n'ai aucune conscience du mouvement de mon bras, des sensations internes que j'ai, musculaires que j'ai dans mon bras. Mon attention est complètement focalisée sur l'objet que j'attrape. Si j'écris un article, pour prendre un exemple d'une activité un petit peu plus abstraite, si j'écris un article, mon attention est absorbée dans le contenu des idées que je cherche à exprimer. Et en fait, je n'ai pas de conscience claire de la succession rapide de commentaires, d'émotions légères, d'évaluations, de comparaisons que je réalise d'instant en instant pour trouver les mots justes, évaluer la justesse d'un mot, en chercher un autre, l'attention est absorbée dans l'objectif, dans le contenu. Et c'est vrai il semble que ce soit vrai de la plupart de nos processus cognitifs et même corporels, comme attraper un objet ou... Quand je suis venue de l'hôtel à l'ENS, j'étais vraiment, mon attention était absorbée par. Je pensais à la conférence, je pensais à mon objectif qui était d'arriver à l'école. Je n'avais pas, à aucun moment, mon attention ne s'est portée sur mes mouvements, mon corps. Pourtant, c'est bien grâce à lui que j'ai pu arriver jusqu'ici, mais tout ça, c'est resté transparent. L'article le plus cité dans le domaine des sciences humaines, peut-être que vous savez duquel article il s'agit, 6500, 7000 citations. C'est un article de Nisbet et Wilson qui démontre, à partir d'un certain nombre d'expérimentations, que nous n'avons pas accès à nos processus décisionnels. Et que, de la même manière, notre attention est absorbée dans le contenu de nos décisions, mais que les processus décisionnels, la succession d'opérations internes, d'évaluations, de comparaisons qui nous amènent à prendre une décision, nous échappent. Alors, C'est assez embêtant, mais bon, c'est un article qui a fait énormément de bruit et qui a d'ailleurs énormément contribué à discréditer l'introspection. Alors, je vais... Donc, on dit en phénoménologie que l'absorption dans le contenu, le quoi du processus, occulte le comment, et est-ce que ce comment reste ordinairement pré-réfléchi, c'est le terme phénoménologique, utilisé par Husserl, par Sartre. Donc, moi, j'aime pas trop ce mot, mais je préfère dire simplement non reconnu, non remarqué, pour pas employer le mot inconscient qui fait trop référence à la psychanalyse, à Freud, au refoulement. Si je ne suis pas consciente des mouvements de mes muscles quand j'attrape le stylo, ce n'est pas que j'ai refoulé cette conscience. Il n'y a pas cette notion de refoulement qui est présente lorsqu'on parle, qui est sous-entendue, implicite lorsqu'on parle d'inconscient souvent. Alors, je vais me concentrer sur un processus particulier qui est le processus d'émergence d'idées, qu'on appelle le processus d'idéation. C'est un mot qui n'est pas tellement utilisé, mais enfin, bon, pour simplifier, on va parler de processus d'idéation. Donc, en fait, lorsqu'apparaît une idée neuve, une idée nouvelle, que ce soit au niveau de la société ou au niveau individuel, toute l'attention se porte sur le contenu de l'idée et l'exploration de ses conséquences. La théorie de la relativité, quelle que soit l'idée, on s'intéresse au contenu, aux conséquences de l'idée, notamment technologiques, mais très peu d'attention est portée au processus d'émergence de l'idée. Comment l'idée est-elle apparue à la conscience du chercheur? Là, on a quelques éléments, quelques témoignages épars, mais peu d'études ont été réellement réalisées là-dessus. Même lorsque l'idée a eu des répercussions incroyables, énormes, dans notre vie quotidienne. Alors, curieusement, on s'intéresse à ces répercussions, mais l'émergence de l'idée, pas tellement. Et voilà. Alors, moi, je voudrais vous raconter un petit peu comment j'ai commencé moi-même à m'intéresser à cette question de l'émergence des idées. En fait, c'était dans le cadre de ma thèse, donc, que j'ai commencé dans les années 95. Mon directeur de thèse, c'était Francisco Varela, et on est tombé assez rapidement d'accord sur le sujet de thèse. J'allais étudier l'expérience associée à l'émergence d'une intuition. Alors, il m'avait proposé ce thème, l'intuition, parce qu'il avait senti que ça correspondait bien à ce qui m'intéressait. Et bon, tout de suite, moi j'ai une formation philosophique, je n'ai pas eu envie de faire une thèse sur les théories de l'intuition, hein, en partant de Platon jusqu'à Husserl. Et puis, bon, ça ne m'intéressait pas de comparer les théories de l'intuition. Et donc, j'ai eu envie de m'intéresser à cette expérience. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Assez rapidement, je me suis dit, j'ai choisi un sujet impossible à étudier, je ne vais pas y arriver. Parce que une intuition, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de cette expérience? Une intuition, n'est-ce pas qu'une connaissance immédiate qui surgit d'un seul coup, à l'improviste? Quoi dire de cette expérience très instantanée? J'aurais pu décrire un processus se déroulant dans le temps, mais une intuition immédiate et instantanée, qu'en dire? Alors, j'ai d'abord eu l'idée de sortir de cette impasse en décrivant les différentes formes sensorielles sous lesquelles apparaît une intuition. On sait bien qu'une intuition, une idée émerge sous la forme, d'une image, d'une image mentale, ou quelquefois sous une forme auditive, sous la forme d'une petite voix, hein, ou alors sous la forme d'une sensation corporelle, ou encore d'une simultanéité de sensation, d'une synesthésie. Et puis, avec cet objectif, j'ai commencé à recueillir des descriptions d'expériences intuitives grâce à une méthode particulière que j'ai rencontrée à cette époque-là, que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle l'entretien d'explicitation, qui a été une méthode qui a été mise au point par Pierre Vermersch et qui est inspirée de la phénoménologie. Mais c'est une méthode de phénoménologie concrète. Donc les procédés de l'explicitation, les principaux procédés sont les suivants. Premièrement, comme le rappelait Gilles, on amène le sujet à décrire une expérience particulière. On évite surtout de lui demander comment émergent tes idées. Parce que si on pose cette question, on n'aura qu'une réponse générale. Et le sujet va plutôt nous décrire la manière dont il pense que les idées émergent. Ou il va nous dire ce qu'il a lu sur le sujet. Il va nous donner sa théorie implicite sur le sujet. Et nous, ce qu'on voudrait l'amener à faire, c'est à prendre conscience de la manière dont ces idées émergent dans son expérience. Mais ce processus qui est en général voilé par l'absorption dans le contenu de l'idée. Donc, il y a un processus qui n'est pas immédiatement accessible. Si je vous demandais comment est-ce que vos idées émergent, c'est pas immédiatement accessible. Hein, c'est pas si facile de répondre. Mais c'est vrai de tout processus cognitif. Comment faites-vous pour mémoriser ? Bon, vous avez quelques idées sur vos procédés de mémorisation. Mais pour pouvoir obtenir une description fine, précise, c'est comme ça que je m'y prendrai, je vous ferai d'abord choisir une occurrence particulière d'expérience, donc une idée particulière pour ma recherche. Et puis, donc le deuxième procédé d'explicitation consiste à évoquer l'expérience. Parce que c'est très difficile de susciter l'expérience d'avoir une idée comme ça, juste avant l'entretien, pour pouvoir s'y rapporter immédiatement, pendant qu'elle est là, toute fraîche. Hein, ça serait l'idéal, bien sûr. Mais justement, le problème de l'émergence d'une idée, c'est que ça n'émerge pas à la demande. Donc, on va être obligé, dans ce cas-là, c'est pas le cas de tous les processus cognitifs, mais dans ce cas-là, on va être obligé de travailler sur une expérience évoquée. Et la technique d'entretien consiste à faire retrouver au sujet, à le replonger dans son expérience, au point qu'il a vraiment l'impression... Alors, on emploie quelquefois le terme de « revivre », mais « revivre », c'est vraiment abusif, parce qu'on ne peut pas revivre une expérience. Hein, on sait bien qu'on ne nage pas deux fois dans le même fleuve. Mais il va quand même la rafraîchir au point d'être capable de retrouver beaucoup d'éléments qu'il a vécu à l'instant initial, mais sans en être réflexivement conscient, sans les reconnaître. Et le travail d'explicitation va consister à l'amener à le reconnaître, à les reconnaître dans le cadre de ce rappel de l'expérience, pendant l'entretien. Alors, pendant l'entretien, très souvent, les sujets glissent vers des explications. Des connaissances théoriques sur, alors par exemple, je ne sais pas, et ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de mettre de côté toutes les explications, tous les concepts, tous les présupposés associés à cette expérience, ici d'émergence d'idées. Il s'agit d'apprendre par exemple, si je regarde... cette table à ce petit bureau, je vois cette table ici, si je devais la dessiner, je la dessinerais comme un rectangle, comme je sais qu'elle est. Mais en fait, je ne la vois pas comme un rectangle, je la vois comme un parallélogramme déformé, elle a une forme qui n'est pas celle d'un rectangle. Et pour vous, là-bas, ce n'est pas du tout non plus un rectangle que vous voyez. Hein. Et si vous deviez la dessiner telle que vous la voyez vraiment, il faudrait apprendre à la voir, en fait, et pas la dessiner comme font les enfants, comme vous savez qu'elle est. Hein. Donc, c'est ça ce qu'on va faire, c'est apprendre à reconnaître des dimensions de notre expérience en essayant d'éliminer les a priori qu'on peut avoir dessus. Si par exemple un chercheur me dit à un moment, je me souviens, il me disait, ah oui, à un moment donné, j'ai eu une image mentale parce que j'appartiens à la catégorie des mathématiciens géomètres, donc je me fais des images mentales et blablabla. Donc là, l'idée, c'est de le ramener gentiment en lui disant « Bon, Roland, si je comprends bien, vous appartenez à la catégorie des mathématiciens géomètres, donc à ce moment-là, vous avez une image mentale. Je vous propose de revenir sur cette image. Comment vous est-elle apparue ? De manière progressive ou de manière ou d'un seul coup, complète ? Et l'entretien va consister donc à relâcher la focalisation alors sur les explications, etc. Et puis aussi sur le contenu de l'idée, pour réorienter l'attention du chercheur, en l'occurrence, sur le comment de l'émergence de l'idée. Hein? Donc Roland, c'est un chercheur en astrophysique. Et moi, franchement, ce n'est pas ma spécialité, hein, c'est très loin. Et donc, j'ai pu l'interroger pendant 2 heures sur l'émergence d'une idée importante dans sa carrière qu'il avait eue, sans du tout rien connaître du contenu de l'idée, ou vraiment pratiquement rien, quoi. Hein? Et donc, pour ce faire, la technique d'entretien utilise un questionnement qui est à la fois neutre, qui est vraiment axé sur la question « comment ». Les deux questions clés, c'est « comment tu fais pour ?» et « comment tu sais que ?». Et rien qu'avec ces deux questions, puis alors, bien sûr, il y a quand même quelques autres subtilités, on arrive à obtenir la description très fine de processus cognitifs, ou plutôt de l'expérience associée à ces processus, jusqu'à un niveau de détail où vraiment la personne, elle est en même temps... Alors, elle a cette impression de... une impression d'étrangeté dans la mesure où elle découvre, elle est étonnée de ce qu'elle découvre, et en même temps, elle le reconnaît parce qu'elle dit « oui, c'est la première fois que je le réalise, vraiment, j'en prends conscience, mais ça a toujours été là, je vis avec depuis toujours ». Mais voilà. Mais c'est tout bon entretien débouche sur des découvertes vraiment, aussi bien pour le chercheur que pour le sujet interviewé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai mené un certain nombre d'entretiens avec une vingtaine de chercheurs sur des expériences singulières, une ou deux expériences pour chaque chercheur. Et puis, j'ai analysé ces entretiens, et ce qui a été étonnant, c'était de découvrir, en fait, une structure générique, une structure dynamique générique de cette expérience d'idéation. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait ce travail de recherche en première personne ou de phénoménologie concrète, on ne se limite pas, donc, à un recueil d'expériences singulières, et en se disant, bon, de toute façon, l'expérience... elle reste singulière, elle reste privée, et puis on ne peut pas identifier, on ne peut pas abstraire et élaborer à partir de ça. Si, c'est tout à fait possible d'identifier des structures, parce que justement, dès le départ, on ne travaille pas sur le contenu, on travaille sur la structure, sur le comment, sur la structure des processus. Et donc là, bon, une structure générique émerge, donc, que je voudrais vous décrire un petit peu. Donc l'idée... l'idée générale, c'est qu'on ne peut pas viser directement la production d'une idée nouvelle. L'émergence d'une idée nouvelle, c'est pas le résultat, en tout cas dans toutes les expériences que j'ai explorées, le résultat d'un processus déductif et discursif. Donc, loin de pouvoir être pressé, forcé, l'idée surgit à l'improviste. Et hors de notre contrôle. Donc, ce qu'on appelle l'idéation, ce n'est pas de l'ordre d'une action volontaire, mais d'un événement qui se produit. Mais ce processus peut être favorisé par un état, une disposition intentionnelle particulière. Aux caractéristiques précises qui m'ont longuement été décrites et dont les descriptions se recoupent très très fortement. Donc, c'est une attention, c'est une forme d'attention dont le centre de l'attention, la source de l'attention, C'est déplacer de la tête vers le corps, très, très souvent. C'est-à-dire le centre de la... Habituellement, le centre de notre attention, on a plutôt l'impression qu'il est dans la tête. Hein. On est focalisé avec ses yeux, ses oreilles, ça se passe là. Et ce que les personnes décrivent, c'est cet état attentionnel favorable, dans cet état attentionnel favorable, c'est une attention beaucoup plus... qui n'est pas focalisée, qui est beaucoup plus ouverte, et on écoute avec tous ses sens. Le terme d'écoute, il n'est pas très adapté, mais c'est-à-dire on est attentif avec tous ses sens. C'est un mode d'attentionnel qui fait intervenir tout le corps. Et cette sorte de descente dans le corps est souvent associée à l'abandon du mode discursif de la pensée pour un mode imagé et même kinesthésique. Par exemple, un des chercheurs me dit « Sur le listing informatique, je vois mes résultats comme une nappe avec des creux et des bosses, et j'ai l'impression de me déplacer, de descendre et de monter dans cette nappe. » L'idée, le problème, c'est pas encore l'idée, c'est le problème, et prend une forme, est perçue sous la forme d'un espèce de paysage intérieur, mais je ne suis même pas sûre qu'il soit intérieur, dans lequel on s'immerge. Hein. Mais ce n'est pas le cas, forcément, de tout le monde à tout moment. Mais je dirais que ça a été très récurrent dans les descriptions que j'ai recueillies. Ou alors, je prends un autre exemple qui est donné par la célèbre biologiste Barbara McClintock. Lorsque je veux étudier une cellule, je descends à l'intérieur et je regarde autour de moi. Je n'ai pas l'impression d'être à l'extérieur de ce que je vois. Je suis à l'intérieur de ma préparation. Alors, donc, abandon du mode discursif pour un mode imagé kinesthésique, sorte de descente du centre attentionnel, du centre de gravité dans le corps. Contrairement à l'attention focalisée, qui est concentrée sur un contenu particulier, qui est fixée sur le problème à résoudre, crispée en quelque sorte sur le problème à résoudre, c'est une attention qui est défocalisée, panoramique. Il y a une sorte d'ouverture de l'attention, de décrispation contemporaine d'une sorte de décrispation sur le problème. Hein, ça va ensemble. Et puis, c'est un mode d'attention qui est involontaire, qui on ne cherche plus, on n'est plus là, tendu, crispé. Je ne cherche pas à résoudre le problème, je ne cherche plus. C'est un petit peu le mode d'attention qu'on peut adopter quelquefois lorsqu'on cherche un souvenir. Si on est trop crispé sur le souvenir le contenu du souvenir qu'on voudrait faire émerger, ça ne fonctionne pas. Il faut ouvrir son attention et puis aller plutôt retrouver le contexte sensoriel de la situation pour que le souvenir puisse émerger. Un peu trouver la Madeleine de Proust qui va permettre à l'ensemble de la mémoire de la scène de se réactiver. C'est un peu l'attention qu'on adopte pour respirer un parfum, par exemple. Vous n'êtes pas crispé, le nez crispé sur la rose. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On se détend et puis on se laisse imprégner par le parfum. Hein ? On a une espèce d'ouverture de l'attention qui est corporelle. En fait, ce n'est pas qu'avec le nez que ça se passe. Lorsqu'on écoute une musique... On n'est plus crispé, comme je disais tout à l'heure, oui, voilà, là, c'est la mésange dans l'arbre. Non, on se laisse imprégner par le son. Il y a une sorte d'ouverture de l'attention et de descendre de l'attention dans le corps. Tous les sens sont mobilisés. Alors, finalement, avec l'identification de cette disposition interne favorable à l'émergence de l'idée, l'expérience de l'idéation a cessé de se réduire à l'instant du surgissement de l'idée. Elle a commencé à se déployer dans le temps. Et puis, peu à peu, est apparu un moment encore antérieur. C'était celui des gestes intérieurs, des procédés que les personnes utilisent plus ou moins consciemment pour se mettre dans cette disposition favorable. Bon, par exemple, il y a beaucoup de chercheurs qui vont utiliser pour induire cette ouverture et cette décrispation, ils vont marcher. Ça, on sait bien, il y a plein de témoignages de chercheurs même très connus qui disent, voilà, moi mes idées, elles me viennent pas dans mon bureau, elles me viennent qu'en marchant, j'ai besoin du mouvement. Certains utilisent le dessin, donc un mouvement plus local, mais ça va être quelquefois c'est un dessin élaboré, mais quelquefois c'est un espèce de gribouillage. Le nombre de chercheurs qui gribouillent des trucs, hein, ça aide à décrisper, à susciter cette décrispation sur le problème. Et donc, je ne vais pas encore rentrer plus dans les détails, mais je voudrais simplement vous faire partager ma découverte de ce déploiement, donc de l'émergence de l'idée, d'abord vers avant l'émergence de l'idée. Hein. Et puis en fait, ce déploiement, il y a eu aussi un déploiement vers l'après, après l'émergence de l'idée, sous la forme d'une microgénèse. En fait, lorsque l'idée apparaît, elle ne prend pas toujours la forme d'une illumination soudaine. Pardon, d'une illumination soudaine. Elle ne surgit pas d'emblée complète sous une forme précise et communicable. Ce qu'on découvre avec ces techniques, c'est que, y a une microgénèse du sens. L'idée affleure d'abord à la conscience sous la forme d'un clignotement. On m'a parlé d'un clignotement, d'un tremblement quelquefois, d'un infime mouvement, d'un ressenti qui est vague et diffus et qui peut passer complètement inaperçu. Et puis au cours d'un processus dont la durée est variable, ça peut prendre quelques secondes, mais ça peut prendre quelques années, ce germe d'idées va peu à peu mûrir. Donc l'instant infinitésimal, apparemment infinitésimal de l'émergence de l'idée, c'est donc déployé vers l'avant, vers l'après, en une microgénèse, dont le contenu de l'idée n'est que le résultat visible. Hein, cette microgénèse est ordinairement invisible. Et cette microgénèse, elle a deux caractéristiques essentielles. D'une part, donc je le répète, le processus de mûrissement, d'émergence et puis de mûrissement aussi de l'idée, ne peut être forcé. Il se caractérise par un sentiment aigu de passivité, d'absence de contrôle, qui m'a été décrit dans énormément d'entretiens. Ça m'échappe, ça m'arrive, ça ne dépend pas de moi, ça m'est donné. J'ai entendu ma bouche poser la question. Donc en cet instant, le sentiment qu'on appelle le sentiment d'agentivité, le sense of agency, c'est-à-dire que le sentiment que c'est moi qui génère l'idée dans mon courant de conscience, il est altéré, comme le confirme l'analyse des structures linguistiques utilisées pour décrire l'expérience. La forme active est fréquemment remplacée par une forme plus passive. La personne décrivant l'expérience ne dit pas « j'ai une idée, je vois une image », mais « une idée me vient, une image m'apparaît ». On connaît la célèbre phrase de Poincaré, du mathématicien Poincaré, « au moment où je mis le marchepied sur le pied de l'autobus, l'idée me vint ». Mais cette forme « l'idée me vint », c'est très fréquent. Ce n'est pas « j'ai une idée », c'est « l'idée me vient ». Et il semble même que le sentiment d'appartenance, « sense of ownership », c'est-à-dire le sentiment que cette idée est mon idée, soit altérée. Alors, étonnamment, hein. Comme le suggère l'absence du pronom personnel « je » dans beaucoup de descriptions. La personne décrivant l'expérience ne dit même pas « une idée me vient », « une image m'apparaît », mais « il y a une idée ». À ce moment-là, il y a une idée, il y a une image. L'expérience n'est pas ressentie comme personnelle. comment témoigne Roland, toujours mon astrophysicien, il n'y a pas du tout d'analyse discursive. Alors là, c'est vraiment le moment d'émergence de l'idée. C'est pour ainsi dire la contemplation du développement propre de cette idée. Alors, quelle forme prend l'idée au cours de ce processus de maturation? Quelle est la texture de cette idée, de ce germe d'idée? Alors, on a la chance qu'Einstein lui-même nous ait donné une indication que je trouve très, très parlante. Il dit que durant toutes ces années, avant l'émergence de la théorie de la relativité, il y avait un sentiment de direction, d'aller droit vers quelque chose de concret. Il est très difficile, bien sûr, d'exprimer ce sentiment en mots, mais je l'avais dans une sorte de survol, d'une certaine manière, visuellement. Et beaucoup de descriptions confirment que l'idée prend d'abord la forme d'une sorte de direction intérieure, d'inclinaison, d'une certaine ligne de force qui évolue au fil du temps, au rythme des rencontres, des discussions, des lectures faites par le chercheur. Roland, lui, décrit un sentiment de pénétration. L'impression que le sujet s'enrichit, que l'idée est juste en ce sens que, ça c'est difficile à décrire, mais il y a cette impression d'aller plus loin, un sentiment de profondeur et d'immensité, qu'il y avait quelque chose, un domaine nouveau qui s'ouvrait. Il y a une espèce de spatialité et de mouvement dans cette idée émergente, associée à cette idée émergente. Alors, de quelle dimension de l'expérience relèvent ces subtils ressentis associés aux idées émergentes? Ils sont clairement non conceptuels, non discursifs. Ils ne sont pas pour autant d'ordre émotionnel ou purement physique, comme des sensations de plaisir, de joie, d'excitation, qui jalonnent aussi l'émergence d'idées nouvelles. Mais là je ne parle pas de ça. Ce sont des ressentis vagues et flous qui peuvent néanmoins être très intenses et persister pendant des années. Alors, ces ressentis vagues et flous, j'ai jusqu'à quelle heure, Gilles? J'ai encore un quart d'heure? Bon, d'accord, ça va. Merci. Ces ressentis vagues et flous, on les retrouve dans d'autres domaines de notre expérience. Finalement, ça nous est très familier. En général, on ne porte pas notre attention dessus. L'absorption dans le contenu des processus fait qu'on ne les remarque pas. Mais, par exemple, un souvenir surgit d'un bond à l'improviste. Sous une forme sensorielle précise, on a une image. Mais quelquefois, il est plus lent à émerger, ce qui nous laisse le temps de tourner votre attention vers cette expérience étrange qui a été subtilement décrite par Proust, avant même que nous puissions reconnaître le contenu du souvenir, le nommer, et avant même que ne surgissent des images, des sons, des sensations précises, s'impose à nous un ressenti qui ne relève pas d'une modalité sensorielle précise, mais un ressenti néanmoins très spécifique et intense, chargé d'une sorte de densité charnelle et vivante. Comme remarquait Gusdorf, qui a étudié cette forme de mémoire, la valeur nous est souvent donnée avant la représentation. Et quand on commence à repérer ces ressentis, on constate qu'ils nous accompagnent constamment. Par exemple, si vous deviez résumer en deux phrases le début de mon exposé, vous auriez sûrement besoin d'accéder en vous-même au sens ressenti. Ça, c'est le philosophe John Lynn qui appelle ça le felt meaning, le sens ressenti, correspondant à votre compréhension. Ce n'est pas seulement un sentiment d'approbation, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais c'est une impression globale, à la fois vague, mais très spécifique. Si vous deviez résumer ce que Gilles a dit, ou un exposé qui a eu lieu hier, par exemple, ça ne serait pas du tout le même ressenti. On, pourrais le décrire comme une sorte de paysage intérieur, comme une espèce de goût particulier. Et puis, si vous n'avez pas de sens ressenti, vous ne pourrez rien dire. Alors, moi-même, en ce moment, à chaque fois que je veux exprimer une idée, je dois retrouver le sens ressenti particulier qui est derrière. Et si je n'ai pas de sens ressenti, je pourrais me raccrocher à ce que j'ai écrit, mais ça va vous paraître très, très ennuyeux. Et si j'ai pas aucun papier et que je perds le fil, ce fil de ressenti, cette espèce d'itinéraire dans le paysage de mes idées, je ne pourrais plus rien dire. Il faudra que je tourne mon attention vers moi-même, vers ce ressenti, pour le retrouver, de manière à ce que les mots puissent émerger à nouveau. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces felt meaning, de ces sens ressentis? D'abord, la spécificité. C'est-à-dire qu'un sens ressenti, bien que vague et flou, ne peut pas être confondu avec un autre, hein, comme je disais tout à l'heure. Il est tout à fait différent d'une idée naissante à une autre idée naissante. La seconde caractéristique, c'est sa transmodalité. Donc l'analyse des descriptions de ces sens ressentis montre qu'ils ne relèvent pas d'une modalité sensorielle déterminée. Ce n'est pas proprement parlé une image, ni une sensation kinesthésique, ni une sensation auditive. Ces sens ressentis ne correspondent pas non plus à des synesthésies, car une synesthésie, c'est l'association de deux ou plusieurs sensations précises, comme une note de musique avec une couleur, hein, ou une lettre avec une couleur, pour prendre les plus connus. Là, un sens ressenti, il n'y a aucune modalité sensorielle précise, mais par contre, il se caractérise par des submodalités sensorielles précises. Les submodalités, ce sont les caractéristiques associées à chaque modalité sensorielle. Par exemple, les submodalités des sens ressentis, c'est la forme, l'intensité. Ils ont une certaine forme, souvent, une spatialité, une intensité. Ils se caractérisent par un rythme, un certain mouvement, caractéristiques qui sont transmodales, c'est-à-dire qu'elles sont transposables d'un sens à l'autre. Le rythme, c'est une caractéristique qui est valable pour toutes les modalités sensorielles. Le mouvement aussi, contrairement à la température, qui est spécifique au toucher, à la couleur, qui est spécifique à la vue. Et ces caractéristiques transmodales, elles ont été repérées depuis très longtemps par Platon et Aristote, qui les appelaient les sensibles communs. Donc, dans un sens ressenti, la frontière qui est ordinairement perçue entre les cinq sens est plus perméable, elle se résorbe en quelque sorte. C'est comme si les cinq sens se ramassaient dans ces sens ressentis. Et de manière intéressante, cette dimension transmodale semble correspondre à ce que le petit enfant expérimente. C'est Daniel Stern, le psychanalyste Daniel Stern, qui a écrit... en plus de livres très intéressants sur le sujet, qu'il a mis en évidence en travaillant beaucoup à partir de films d'interaction des nourrissons avec leur mère. Enfin, je pense que vous connaissez peut-être même mieux que moi. Il montre que le monde du nourrisson n'est pas un monde d'images, de sons, de sensations tactiles, mais de modifications dynamiques subtiles, de mouvements, d'intensité, de rythme, c'est-à-dire de qualité transmodable. Transmodale, transposable d'un sens à l'autre. Donc le nourrisson ne perçoit pas les actes comme tels, donc attraper le biberon, déplier la couche, mais ce qu'il appelle les dynamiques de vitalité liées à ces actes. Comment sa mère le prend, comment elle déplie la couche, comment elle le peigne, elle se peigne elle-même. Et ce sont ces rythmes qui permettent ce qu'il appelle l'accordage affectif entre la mère et l'enfant. Et parce que d'instant en instant, toutes les 5 secondes, je crois, de manière complètement pré-réfléchie, la mère et l'enfant accordent leur rythme interne. Par exemple, la mère va répondre par un babillement du bébé, par une petite caresse, de même intensité et de même rythme. C'est la transmodalité, en fait, du rythme, qui permet ce passage d'un sens à l'autre. Et une des conclusions de Stern, c'est que c'est cette synchronisation rythmique qui permet la résonance, l'accord entre deux univers intérieurs, et qu'elle semble être la base de l'intersubjectivité affective tout au long de la vie. Ce monde dynamique et transmodal qu'expérimente le nourrisson, pour lui, ça ne correspond pas à une étape qui serait abandonnée pour passer ensuite à des étapes plus sérieuses, discursives, conceptuelles. Non. Cette strate d'expérience reste active tout au long de la vie. Elle est la texture même de notre expérience à chaque instant. Et notamment, c'est dans cette dimension dynamique que le compositeur, le chorégraphe, le poète, enfin, c'est cette dimension qu'il cherche à exprimer par la musique ou sur la toile. C'est dans cette dimension que l'on trouve à la source des idées, même les plus abstraites, que réside le sens. Alors, Descartes définissait le corps comme une substance, là je fais un tout petit peu de philosophie, comme une substance étendue et connaissable par les sens, l'esprit comme une substance non spatiale et inaccessible aux sens. De quelle dimension relèvent ces sens ressentis? Ils ne se déploient pas dans l'espace physique, et nous ne pouvons pas, à proprement parler, les voir, les entendre, les toucher, les goûter. Mais ils sont animés de mouvements et de rythmes subtils. Ils sont néanmoins dotés d'une certaine forme de spatialité, d'une certaine texture, d'une certaine densité, d'une certaine sensorialité. Ils semblent se situer à la charnière du physique et du psychique. Ou plutôt, en eux, cette distinction, habituellement très rigide, semble se résorber. Pour désigner cette dimension, où la frontière entre les modalités sensorielles et même entre le monde intérieur et le monde extérieur semble se résorber, se dissoudre, nous n'avons pas de mots. Comme l'écrit Merleau-Ponty, ce que nous appelons chair n'a de nom dans aucune philosophie. Alors j'ai 5 minutes pour essayer de simplement poser la question. Quelles pourraient être les conséquences pédagogiques de la reconnaissance, de l'exploration, de cette dimension de notre expérience dans laquelle semble résider le sens? Donc, si comprendre une idée, c'est accéder, derrière les mots, au sens ressenti qui sous-tend l'idée. Est-ce que nos méthodes pédagogiques sont bien adaptées? Alors, je ne suis pas du tout, je vous rappelle, pardonnez-moi, soyez indulgents avec moi, je ne suis pas du domaine. Simplement, je me pose des questions, parce que je suis quand même enseignante. À l'heure actuelle, enseigner consiste le plus souvent à transmettre des contenus discursifs de connaissances. Et par exemple, dans le domaine scientifique, les procédés d'enseignement qu'on utilise habituellement occultent l'étape d'émergence de l'idée. L'effort de transmission se concentre sur le contenu des idées scientifiques. Et éventuellement, le processus qui permet de prouver, de démontrer l'idée, mais très rarement sur celui qui permet de la trouver. Comment faire pour amener les étudiants, les apprenants, à accéder au sens ressenti du chercheur qui a eu cette idée? Comment faire pour, au lieu de lui transmettre le contenu de l'idée, susciter chez lui une compréhension non discursive de l'idée? Initier chez lui, en quelque sorte, la microgénèse du sens? Quels seraient les procédés d'un tel enseignement? Bon, par, ex- par exemple, il semble qu'il y ait deux modes de lecture. Une lecture très superficielle et rapide, où on reste au niveau du sens. Je pense que c'est difficile de rester au niveau du sens discursif, parce qu'il y a, enfin, pour moi, il n'y a pas de sens discursif. Le sens n'est pas discursif. Mais en tout cas, deux modes de lecture, une lecture plus superficielle et une lecture profonde, ou vraiment plus incarnée, où on va vraiment accéder au sens ressenti du texte. Comment susciter cette activité chez l'apprenant, chez les enfants, les étudiants, cette activité qui permet de retrouver le sens ressenti derrière les mots. Comment susciter ça? Comment est-ce que la disposition attentionnelle propice à l'émergence de l'idée, cette disposition ancrée dans le corps, incarnée, ouverte, non volontaire, est-ce que cette disposition peut s'apprendre et s'entraîner? Donc de nombreuses pistes de recherche semblent s'ouvrir. Comment se fait le passage d'un sens prédiscursif, presque gestuel, transmodal, au niveau verbal? Comment se fait ce passage? C'est la question que posait justement Daniel Stern de manière très précise. Comment, dans le processus de compréhension d'une idée, se fait le passage inverse, des mots à leur sens gestuel et ressenti? Et comment susciter, bien mieux susciter ce processus de compréhension que j'espère vous êtes en train de réaliser. Oui. Comment la pensée peut-elle parfois se couper, on a l'impression qu'elle se coupe quelquefois du ressenti, pour évoluer à un niveau purement discursif et verbal? Comment ça peut se faire? Donc, je conclurai en disant que des méthodes de description microgénétique récemment mises au point, qui utilisent l'entretien d'explicitation, mais des méthodes complémentaires dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, permettent donc d'étudier ces processus. Et des études plus poussées, plus systématiques, pourraient avoir une incidence importante sur nos pratiques d'enseignement et de recherche. Mon impression personnelle, c'est qu'en permettant aux enfants, aux étudiants, d'entrer en contact avec la profondeur de leur expérience, de telles recherches permettraient peut-être de réenchanter l'école. Voilà. Merci.